Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir, bon matin, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à la BD Han Solo et Chewbacca, le volume 2, donc sous-titré Mort au vif. Cet arc-là, c'est Mort au vif, deuxième de deux, hein, on rappelle, c'était une mini-série, donc c'est déjà le dernier. Ici Francis en direct de Québec et comme toujours, je suis accompagné de mon collaborateur Jean, John Sparrow en direct de Vancouver. Ça va bien Jean?
Oui, ça va très très bien. Et toi, Francis, la forme?
Pas du tout. Ça, c'est la question à pas poser. Non, pas du tout la forme. Complètement, comment que vous dites, rincé peut-être, lavé en France. Bref, c'est ça, épuisé. Mais c'est pour ça que les boissons énergisantes existent. Voilà.
Ah bon, on sera deux, du coup. J'espère que les auditeurs, en tout cas, eux, sont en forme. Parce que, pareil, fatigué, mais très content de faire une émission avec toi.
Oui, effectivement, toujours agréable ces petites émissions-là sur les BD, les comics. Avant d'aller plus loin, on va souligner notre partenaire pour les épisodes de littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Ceux qui connaissent pas, on vous invite à aller faire un tour sur Facebook. Facebook et bon, les autres réseaux sociaux aussi, c'est présent. Mais voilà, c'est beaucoup hein, l'échange, les discussions, tout ça sur Facebook. Et on ne discrimine pas si vous n'êtes pas au Québec, c'est pas grave. Au pire, vous comprendrez peut-être pas certaines des expressions utilisées par certaines personnes. Mais au-delà de ça, vous êtes tous les bienvenus. Donc, venez rejoindre le groupe Facebook de Star Wars Littérature Québec. Un petit WhatsApp Star Wars rapide, Jean?
Oui, comme toujours. Bah, petit WhatsApp Comics, hein, émission Comics oblige. Vite fait, là, on a terminé la mini-série donc Nameless Terror de la République par George Mann. J'irai pas plus loin, on va chroniquer ce tome sûrement en fin d'année, vu qu'il sort chez Panini en fin d'année. Donc ça, c'était bien sympathique. On a aussi fini la mini-série jeunesse, donc les Haute République, les aventures, donc avec la Padawan, Sav Malagan. Donc les deux tomes, ici en VO. On va chroniquer aussi là, le premier tome très très bientôt. Donc voilà, je réserve mon avis pour cette émission. J'ai aussi fini le tome Hidden Empire. Bah, alors, le tome, pas les tomes compilés qui sortent chez Panini en France, mais bien la mini-série Hidden Empire. Les 5 numéros ensemble, qui est plus digeste, on va dire, quand cette mini-série est prise toute seule, sans tous les tie-in des autres séries, mais qui reste quand même toute pétée, quoi. Enfin, on en parlera aussi si on doit chroniquer.
Ouais,
c'était vraiment pas ouf, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait là récemment? Ouais, on a commencé la mini-série Obi-Wan Kenobi qui adapte la série télé, justement, commence aussi en comics. Donc on a commencé ça. Et une curiosité, donc j'ai lu le fan comics, alors c'est pas du tout officiel, hein, c'est un fan comics qui retranscrit le Star Wars épisode 9 Duel of the Fate, donc qui est basé sur le premier script de Colin Trevorrow, le tâcheron derrière les Jurassic World tout pourri.
Oui, mais qui présentait plusieurs bonnes idées quand même pour un éventuel épisode 9 avant de se faire tasser.
Voilà, exact, par ton pote JJ, ouais, que t'apprécies beaucoup. Mais effectivement, sur Jurassic World, il a fait de la merde. Sur Star Wars, il y a des bonnes idées. Moi, je conseille vraiment la lecture de. Ça se trouve facilement sur internet. Duel of the Fate fan comics. Alors, le dessin est ultra moche, c'est vraiment très 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 moche, mais on s'en fout, c'est juste histoire de voir ce qu'il voulait raconter dans ce film. Et il y a quelques ressemblances avec l'épisode 9, tu sens qu'ils n'ont pas tout jeté, qu'ils ont repris quelques points de son script, mais il y a des. Ouais, il y a ben, par exemple Rose qui a une plus grande importance, bizarrement, alors qu'elle était squeezée de l'épisode 9. Mais il y a plein de trucs. Il y a le personnage de Rey et Kylo qui sont vachement bien développés, je trouve, d'une manière totalement différente.
Il y avait Coruscant, il me semble, il y avait de l'action.
Il y a Coruscant, il y a quelques petits clins d'œil aux Legends. Ça, ouais, alors on saura jamais si le film aurait été top ou quoi. Mais bon, voilà, on a eu ce qu'on a eu. Et puis voilà. Mais je conseille bien la lecture du script en prose. qui est facilement trouvable aussi, soit qui est d'ailleurs leaké avant la sortie du film, si je me rappelle bien, et soit le comic, soit le fan comics que c'était sympathique. Voilà, voilà.
Excellent. De mon côté, c'est très mollo, surtout depuis là, on a fait un épisode récent. D'autant que là, je suis dans les travaux. C'est comme si j'avais pas assez déjà de travail rémunéré. On est dans les travaux dans la maison. On a grandi par l'intérieur, comme on dit ici. Faire une nouvelle chambre à Tamara. Certains auditeurs se souviendront. Mm-hmm. Bref, voilà, c'est très très mollo côté Star Wars. C'est passé, mais un peu de rattrapage comics, comme tu sais, avec plusieurs parts de plusieurs mois. Donc, ça va rattraper le mal.
Et Ahsoka, t'as bien aimé le final? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, là, l'équipe
qui ouais, j'ai, sur... ben, j'ai donné un petit avis très très rapide au début de l'épisode du 900e, là, de la semaine dernière. Mais oui, moi, je ne serai pas dans les haters. Je suis globalement satisfait. Je vois vraiment ça comme une série animée, mais avec des vrais acteurs. Ouais. Voilà. Et je pense que ça dépend beaucoup des attentes de chacun, puis tout ça, là, parce que oui, plein de choses à critiquer, mais bon, je trouve que certains, entre autres, certains membres de l'équipe ont été très durs, mais bon, ça fait partie du charme aussi de l'équipe de Star Wars en direct. Donc, si je te demandais, qu'est-ce qu'on avait justement à se mettre sous la dent récemment du côté des autres épisodes de Star Wars en direct?
Ben oui, oui, on a quelques épisodes récents là. Ben en littérature, on a chroniqué ensemble le dernier roman de la phase 2 de la Haute République, Path of Vengeance. Il y a également, ben, tu le mentionnais juste avant, la critique de la série Ahsoka, donc le dernier épisode, le final, par la team française, donc Loïc, Sylvain et Frédéric, qui étaient relativement véhément vis-à-vis de ce final. Sur certains points, je les comprends, hein, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu leur langue dans leur poche. Et... Non, c'était très, très sympathique à écouter. Et le superbe épisode, donc foire aux questions, du 900e épisode de Star Wars en direct. C'est magnifique. Et super épisode aussi qu'on vous conseille d'aller écouter. Donc vous répondez, donc il y avait toi, il y avait JF, il y avait Dany évidemment qui présentait, et il y avait Juliane. Et vous répondiez aux questions des auditeurs.
Et Seb.
Super épisode.
Et Seb,
oh là là, pardon. Et Seb, oui, ben, la totalité des Québécois, de l'équipe québécoise, en fait. Donc,
Ben, pas tout à fait, mais des vrais Québécois, j'avais
voilà, des vrais Québécois, voilà, c'est ce que je
voulais dire. Des vrais Québécois de l'équipe québécoise.
C'est ça. Il manquait, ouais.
Donc, coucou Julien.
qui est canadien, mais pas vraiment québécois.
Ouais, ouais, ben ça, écoute, on fera pas une formation sur la citoyenneté ce soir. Voilà. Excellent, excellent. Oui, effectivement. Puis l'épisode est long, hein. On prévient les gens au-dessus de 2 heures, je crois. Le 900e, donc c'est vraiment un épisode que vous pouvez écouter en plusieurs étapes. Là, ça s'arrête très bien, là, justement, plusieurs sujets abordés. On vous invite à aller voir ça.
Très
belle participation du public aussi. On avait beaucoup de gens dans le chat, là, puis on interagissait beaucoup avec eux. C'était bien plaisant.
Beaucoup de questions et beaucoup de secrets révélés sur les origines de Star Wars en direct, hein, donc c'était intéressant.
Et des photos que certains auraient préféré ne soient pas dévoilées, des photos qui datent de plus de 20 ans. Donc voilà. On rappelle aussi, hein, ceux que ça ne serait pas déjà fait, de vous réabonner ou de vous abonner en fait tout court là, au niveau des réseaux de Meta, donc Facebook et Instagram. On était parmi les premières victimes de la grande purge de tout ce qui porte le nom Star Wars. Donc nous, comme on faisait partie des premiers, on a tout perdu. On n'a pas pu se prémunir là, comme tous les autres qui ont changé leur nom pour SW. Donc voilà, on vous invite à vous abonner à nos nouvelles versions de nos pages, comme on le voit à l'écran. Donc Star Wars en direct, podcast pour Facebook et SW en direct pour Instagram. Et sur ça, ben, on va passer en hyperespace. Après, on va pouvoir attaquer le sujet principal.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et de retour, donc, effectivement, ce soir, on parle du volume 2 de la série Han Solo et Chewbacca, évidemment, au format volume 2 en termes traduction française, ou TPB, là, pour ceux qui les achètent en version originale anglaise. Donc, c'est les numéros 6 à 10, c'est une série de 10 numéros. faire quelques specs rapidement, l'auteur est toujours Mark Guggenheim. On rappelle, c'est sa première participation en TECOM majeur, la série majeure, du côté de Star Wars. C'est lui qui avait fait le premier album, là, les cinq premiers numéros. Fait que c'est bien, il y a la continuité de ce côté-là. Au dessin, on a David Messina et Paul Frey. Principalement David Messina. Là, Paul Frey est juste là au numéro 6, je crois. Il y a quand même une continuité. Puis il y a Alex Sinclair aussi comme coloriste. Donc, ça assure quand même... C'est lui qui était là aussi depuis le début. Ça assure une continuité visuelle quand même. Chronologie, on est en moins 8. Je vais revenir après, mais c'est ça. Là, on parle d'un 136 pages pour un 19 euros et sorti en France le 20 septembre. Je crois que ça représentait un délai par rapport au TPB américain, un délai de 3 mois. On reste quand même dans le très raisonnable, je trouve, là, du côté de chez Panini pour les traductions. Et c'est ça la chronologie, je parlais. C'était la seule série. C'était particulier parce que c'était pas à la même chronologie, au même temps présent que les autres séries régulières. Tu sais, Star Wars, Vader, Aphra, Bounty Hunters. Mais c'était très, très lié. vraiment très, très lié aux autres séries. On va y revenir tout à l'heure là, en spoilers. Mais c'est ça, il y avait même un numéro révélation qui avait des mini histoires de chaque série, dont Han Solo et Chewbacca. Donc c'est ça, c'est quand même particulier là, comment ça s'inscrivait par rapport aux quatre autres séries régulières. Et je pense que vous voulez toucher un mot au niveau du dessinateur.
Oui, dessinateur, bah, tu mentionnais le fait qu'il y ait cette fois deux dessinateurs, contrairement au premier tome où on avait une continuité graphique, ça c'était bien. Mais là, ce qui est bien, c'est que Paul Frey, je ne sais pas s'il imite vraiment le style de Messina, mais le style est relativement similaire. Donc du coup, c'est pas comme les duos genre Anendito gentil ou gentil complètement à l'ouest.
Ouais,
vraiment différent et moche en plus. Non, là, c'est plutôt cool. Tu disais qu'il était sur le numéro 6. Alors, sur le numéro 6, ils sont les deux ensemble sur un numéro. Et on voit pas vraiment le changement d'une page à l'autre. Et par contre, il est tout seul sur donc Paul Frey sur le numéro 7. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça, il est tout seul sur le numéro 7. Et là, par contre, ouais, là, pareil, on voit pas vraiment la différence. Donc, ce qui est bien, c'est que le coloriste étant le même, donc c'est vrai que la couleur aide vraiment. C'est une couleur assez particulière hein, dans ces deux tomes. C'est une couleur assez pastel et tout, quoi. Un peu rétro, je dirais, quoi. Du coup, ça aide à faire passer tout dans un ensemble relativement homogène, ce qui nous fait plaisir. Nous, on aime bien quand le dessinateur est relativement homogène sur des tomes comme ça. Ouais, voilà. Il y a peut-être le solo, je sais pas ce que tu en as pensé, mais là. Le dessin de Solo en lui-même, le personnage, comme Frey, je trouve un poil moins réussi, un peu plus différent.
On y reviendra au pire, c'est ça, après le résumé sur critique un peu plus poussé et au niveau du scénario et au niveau du dessin. Je vais juste mentionner vite, je montre à l'écran la couverture du côté de chez Panini, mais toutes les couvertures aussi ont une continuité, là, c'est par l'excellent Phil Noto, là, on reconnaît très facilement son style, là, que moi j'aime beaucoup, que je trouve parfait justement pour qui fait aussi parfois des couvertures de romans, hein, donc c'est ça, je sais qu'il y en a qui aiment moins, là, mais c'est ça, moi c'est un style que j'aime beaucoup.
Ça te fait penser, bon, on en avait peut-être mentionné dans la première émission sur le tome 1, mais ça fait très Drew Struzan, là, certaines des couvertures, et celle que tu as montrée, celle du tome, du coup. Il y en a une autre plus tard aussi où tu as cette photo de groupe où tu as tous les personnages avec un petit vaisseau sur le côté. Moi, ça me fait beaucoup penser aux superbes affiches d'épisodes de 1 à 6, mais en version édition spéciale et prélogie, quoi. J'adore ce genre de cover avec tous les persos, les personnages principaux en gros, les plus secondaires en petit Drew Struzan, quoi. Donc ça c'est très très cool. Par contre les autres covers, alors est-ce que tu l'as sur la encore, c'est la question qu'on se pose à chaque fois, est-ce que tu les as en fin de tome chez Panini ou en VO? On les a et c'est pas foufou, quoi. Les variantes et
C'était rien d'extraordinaire, il n'y avait pas rien qui ressortait, mais il faut quand même mentionner les variantes. Il y a un petit côté abus total là, dans le sens que c'est pas comme quand il y a une variante pour les collectionneurs, tout ça. Là. Marvel a tendance à faire une flopée. Tu sais, je pense entre autres aux couvertures en imitation de boîtes de figurines.
Ah oui, ça, c'est vrai.
C'est parce que ça, c'est une fois, tu sais, pour une affaire spéciale, pendant des années, là, c'est ça. Je sais pas comment les collectionneurs, en fait, de comics, là, qui vraiment les achètent au numéro. Qui collectionne des couvertures variantes, je sais pas, je peux pas croire que quelqu'un achète tout, Je me dis que ça n'a juste pas de bon sens la quantité qu'ils peuvent faire sur certaines séries, alors que d'autres, c'est très tranquille.
À moins d'être fan du personnage comme Seb de l'équipe française qui adore Han Solo, j'imagine qu'il prendrait ouais, toutes les variantes Han Solo, quoi. Je sais pas.
Dur à dire. Je voulais juste montrer aussi, avant que tu aies demandé ton avis très rapide, qu'on regarde de ce qu'on avait donné comme note au premier numéro. Tu vois qu'on avait critiqué au printemps, ça donnait une moyenne de 80%. Donc un 15 pour moi, un 17 pour toi. Ce qui est quand même très bon. Parce qu'on peut dire que c'est quand même un peu dans le haut du panier. Fait qu'on va voir si le volume 2 est de la même trempe. Si je te demandais, Jean, en un mot rapide, là, ton avis avant de passer au résumé.
OK, en un mot, hein, c'est ça? Donc, en un mot...
On peut extensionner à 2-3 mots maximum. Deux?
OK. Ben, c'était... Ouais, c'était plutôt bien. Voilà.
Ça plutôt fait deux... bien?
Ouais, plutôt bien.
Moi, j'irais avec satisfaisant, je crois. Voilà. Ouais, satisfaisant, je trouve que ça le décrit bien. On va y revenir après le résumé. On rappelle, dans les épisodes comics, là, on va tomber dans le full spoilers, donc divulgâcheurs. C'est ça. Faites pas le saut si vous voulez. Et on est quand même sur une... C'est pour rappeler, on l'a pas précisé, ce n'est pas un album d'anthologie. Ce n'est pas 5 petites histoires. C'est une intrigue, un arc de 5... qui fait vraiment la suite directe de l'arc de 5 épisodes précédents, du volume 1. Et il y a une certaine intrigue tout le long. Donc, évidemment, on va vous gâcher l'intrigue. On vous invite, si vraiment vous êtes allergique aux spoilers, aux divulgâcheurs, on vous invite à mettre sur pause, à revenir après avoir pris connaissance de la BD. Sinon, vous êtes les bienvenus de rester avec nous. Jean, si je te demandais de résumer... sans tomber dans le moindre détail, de résumer l'histoire de cet album-là.
Du coup, on est en partie spoiler, là.
Ouais, en spoiler.
Ouais. Ok. Donc, ça marche. Alors, résumé, tac, ici. Donc, on reprend là où on avait laissé nos héros, donc à la fin du tome précédent. On se rappelle, Chewie en prison avec Maskanata. Et, comment il s'appelle ? Et Han Solo, qui était laissé pour mort, hein, qui avait été touché par le tir de blaster de notre ami Greedo. Donc, de leur côté, on a l'équipe de Tonga, de Corbus, tout ça. Alors Corbus, c'était le faux papa, on se rappelle, l'espèce de pirate, de mercenaire, je ne sais pas trop, qui s'est fait passer pour le père de Han Solo, qui était en fait un gars qui voulait juste voler son vaisseau et surtout la fameuse urne, hein. On se rappelle que c'était le MacGuffin du tome 1, une espèce d'urne que voulait Jabba, qui contenait les cendres de quelqu'un de particulier apparemment. Donc on a ça, on a Tonga, donc Corbus, Keltana, Greedo, tout ce petit groupe de bounty hunters sont à la recherche du faucon et donc de cette urne. Ils arrivent à voler le vaisseau avec l'aide de notre Whitey Corellien d'ailleurs, le vaisseau de Keltana. Mais l'urne a disparu, elle n'est pas dans le vaisseau. On apprend aussi en fin numéro 6 que sur une planète isolée de la bordure extérieure, on voit donc notre Han Solo qui a survécu au shot de Greedo est en soins intensifs en compagnie d'une race alien inconnue. Numéro suivant, donc on a un flashback sur l'après-shot de Greedo. Qui avait semblé avoir tué Solo. Donc Solo a été abandonné par le crew sur cette planète-là pour être soigné. On apprend que Chewie, de son côté, lui a été jugé et condamné à 100 ans de prison. Donc Han, en convalescence, il se requinque un peu et il apprend ça via Holo News, si je me rappelle bien, et décide d'aller à sa rescousse, évidemment. Chewie, entre-temps, va fomenter un plan de comment t'appelles ça de prison break, j'ai pas le mot en français.
D'évasion,
voilà. Avec Maskanata, ainsi qu'avec une certaine Phaedra, qui est une des inmates des prisonnières de cette facilité-là. C'est énormément d'anglicisme, j'arrive pas à trouver mes mots en français aujourd'hui. Donc Maz va se faufiler dans les canalisations, la classique. Chewie va avaler une espèce de pilule fabriquée par cette fameuse Phaedra qui va lui faire simuler un arrêt cardiaque. Et donc tout ça va servir à s'échapper de la prison. Greedo, de son côté, va révéler à... attends, là je me suis perdu dans mes notes. Greedo qui... donc il va révéler au groupe que le faucon... il a toujours le faucon avec lui sur Tatooine, mais que l'urne, par contre, est dans les mains du grand Moff Tarkin. Donc c'est un peu le retour du grand Moff Tarkin dans cette série. Donc un autre casse est donc organisé par Han Solo, Chewbacca et Phaedra. Donc ouais, donc là c'est dans le bureau même de, du roman Tarkin, quoi. Donc ça va être chaud. Bureau rempli de Death Troopers, c'est des Death Troopers hein, si je me trompe pas.
Ouais, moi, ouais, exact.
C'est ça. Donc là ils vont pareil, il faut monter donc un casse du bureau via le système d'égout. Hein. On en reviendra, c'était assez, assez rigolo ce, la manière dont ils essaient de casser le bureau du Grand Moff Tarkin. Le heist se passe plutôt bien. Ils arrivent à se défaire des Death Troopers, à récupérer l'urne, à sauter sur un train en marche là, et le tout, le numéro se termine sur un cliffhanger où Chewie a l'air de tomber du train et d'aller à sa mort. Mais pas de panique, vu que le numéro suivant, on sait que tout, tout va bien, il se rattrape sur un vaisseau, tout est bien qui finit bien, il retourne sur le faucon, il se rend compte que dans l'urne, c'était pas vraiment descendre en fait, mais c'était un truc, donc on sait pas trop ce que c'est, une espèce de boule métallique. Donc ils vont aller sur Nar Shaddaa pour avoir des renseignements sur cette boule métallique, et ils apprennent donc que c'est un neural core, donc un noyau... un cerveau droïde en quelque sorte qui a 200 ans, qui est assez ancien et qui a appartenu apparemment à un fameux Ajax Sigma qui est un ancien droïde qui avait fomenté un uprising, une rébellion des droïdes à l'époque déjà. Qui pensait être libre et voulait libérer ses amis droïdes de la servitude en gros hein, c'est ça, c'est un peu ce qu'avait fait L3 sur dans Solo
337 ouais dans Solo ouais. Ben, on a même un flashback hein. Han Solo repense à cet événement là en disant exactement. Ouais ça s'est pas très bien terminé la dernière fois que j'ai vu quelque chose du genre.
C'est vrai donc voilà. Et d'ailleurs ce Ajax, bah, on en parlera tout à l'heure, bah, le lien avec les séries actuellement en comics. Donc Jabba veut récupérer ce noyau et entre temps on a donc le groupe de Kel Tana, donc le groupe de Bounty Hunter arrive pour voler ce noyau là. Il y a aussi tout le monde qui arrive là, t'as Corbus, donc le faux papa, t'as même l'espèce de Marshall là qui était censé capturer Han Solo qui arrive. Grosse baston hein, c'est le dernier numéro, c'est la baston générale. On a Chewbacca contre le Marshall, on a Han contre son faux papa. Il y a un petit duel Whitey contre Whitey, ça c'était pas mal, une petite bataille spatiale avec le même style de vaisseau on va dire. Han Solo arrive à s'en réchapper, Fedra et Chewbacca également, et ils vont enterrer ce noyau sur une planète pour que personne ne le trouve, donc surtout pas que Jabba ne le récupère pour qu'il puisse, je sais pas, peut-être construire une armée droïde avec, on n'en sait rien. Et donc ça finit sur ça, sur une mission qui s'est bien déroulée. Han propose ironiquement à Fedra de la déposer chez elle, sachant qu'elle ne sait pas du tout d'où elle vient, ou d'aller voler de nouveau, Augustus Grave, qui était le CEO de la Corellian Engineering Corporation du tome 1. Donc voilà, il propose ça, donc ça finit sur ça, avec une petite page ouverture. Parce qu'entre-temps, il y avait le duel Han-Corbus, ou Corbus tombé dans un précipice. Un peu à la manière de l'épisode 7, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup pensé à l'épisode 7.
Ah ouais, avec l'angle de vue, exactement, ouais. Là, de Han et Kylo Ren.
Et Kylo, ouais. Donc, c'était, le clin d'œil était sympathique. Mais voilà, donc Corbus en a réchappé. Et on le voit avec Greedo dans la cantina de Tatooine, j'imagine que c'est. Donc voilà, et donc avec un... est-ce vraiment la fin à toute fin, et voilà, une fin relativement ouverte quoi. Donc l'intrigue principale de ces deux tomes termine là, mais le personnage de Corvus, ben, on s'attend à l'avoir, à le revoir bientôt plus tard dans d'autres œuvres quoi. Voilà, ça finit sur ça.
Excellent, merci. Ben, dans le fond, effectivement, on ferme des portes pour encore une fois la rouvrir tout de suite après. Mais il y avait beaucoup de liens quand même avec d'autres séries ou à venir, ou en tout cas des développements des autres séries. Tu as mentionné Tonga, entre autres, tantôt, qui est un personnage plus que récurrent, principal de la série Bounty Hunters.
Oui, il y a beaucoup de personnages.
On avait d'autres chasseurs de primes aussi qu'on a souvent vu, là, soit dans Bounty Hunter, soit dans d'autres séries. Et le fameux Ajax, qui là, ça va être plus tard, qui va prendre son importance dans l'histoire. Il y a le faux père de Solo, le Corvus, que lui, corrige-moi si je me trompe, on ne l'a pas revu jusqu'à maintenant. C'est récent, là, quand même, comme. Comme comics, on peut peut-être, avant de... T'avais commencé à parler au niveau dessin. Moi, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être... Oui, t'as raison, au niveau... T'avais parlé le visage d'Han Solo, tout ça. Moi, en fait, c'est au niveau continuité, j'ai trouvé que d'une page à l'autre, puis que d'un numéro à l'autre, puis pas nécessairement le changement de dessinateur, là, mais dans un même numéro, effectivement, des fois, le visage de Solo, puis pas juste le visage, la tête, les cheveux, tout ça, c'était loin d'être parfait. Moins justement bien que dans d'autres numéros du premier volume. Après, c'est des détails, mais c'est, il y a des petites affaires comme ça là, que, où par exemple, tu as parlé des deux vaisseaux, les deux YT. Mm-hmm. Il y a des moments j'étais obligé d'essayer de revenir en arrière ou de voir, OK, c'est lequel des deux. Parce qu'on nous montre l'angle avant du vaisseau, que c'est la même chose, c'est vraiment le derrière qui est différent, là, ou vice versa, je me mélange peut-être. Mais tout ça pour dire qu'il y avait quelques faiblesses comme ça, mais ça reste du très beau dessin. Là.
C'est quand même très beau. Ouais.
On picosse un peu, là, on cherche les bobos, mais c'est ça. C'est pas affreux, c'est pas comme. C'est ça. Il y a tellement d'autres séries où on se dit comment ils ont pu approuver ça là, au final.
Au niveau dessin, c'est plutôt propre, c'est très propre. Hein.
Oui, c'est ça. Puis, comme tu disais, avec le même coloriste, moi, c'est un coloriste que j'apprécie de plus en plus, qui est là depuis quand même plusieurs années, là, avec différentes séries de Star Wars. Que même, t'as raison, des fois, il y a des tons pour donner une ambiance, mais on est dans du coloré quand même. On est jamais dans du très. Tu sais, comme tu as dit, il y a un numéro, c'est très pastel, hein, mais tu sens que c'est volontaire dans le sens que ce qui doit être coloré l'est. Et puis, c'est ça. Moi, c'est un coloriste que les gens ont peut-être du mal à réaliser l'impact que ça fait, là, mais au final, oui, c'est ça. Ça permet une continuité entre deux dessinateurs différents.
Donc, ça aide beaucoup. Hein.
Fait que, mais c'est ça. Il y avait des petites choses. Je pense, entre autres, par exemple, c'est dans le premier numéro, je crois. Oui, c'est ça, l'évasion de prison. On est encore dans la prison. Et on sent qu'il y a des logos de la prison. C'est vraiment ici au Québec on dirait botché là, dans le sens ça a été apposé par après numériquement là, par Photoshop dans le sens où ça suit pas du tout un trait de crayon ou le trait des tissus ou des angles puis tout ça. Il y a des petits défauts de ce style là.
Oui, tu parles du logo qu'on voit sur le dos de la tenue des
les tenues de prisonniers, ouais. Aussi sur les uniformes des gardiens, des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est évidemment là. Il y a des gens qui vont trouver qu'on cherche des bibittes où il n'y en a pas, là, mais c'est ça. C'est pas parfait, mais c'est très bien.
Ouais, j'ai rien à rajouter sur la dessin coloriste, c'est très très bon. Oui, je transcris super bien les ambiances quand on est sur Tatooine, tu sens le côté un peu chaleur. Quand on est dans l'espèce de bureau d'un chef de la mafia, c'est très très rosé, donc t'as là une ambiance un peu pesante. Quand on est sur Coruscant aussi, non vraiment, il y a vraiment très bien les ambiances. Ouais, c'était vraiment très bien. Mais oui, c'est très coloré aussi. Ça pourrait peut-être limite faire passer pour un comic jeunesse presque niveau couleur et ambiance, je dirais. Ouais. Mais ouais, non, c'est très.
C'est dans le côté cartoon. On n'est pas dans un style cartoon non plus. Là.
Non.
Sinon, côté intrigue, je sais pas si tu. Il y a plusieurs éléments. Hein. Ça va vite dans cette série-là. Comme tu as dit, premier numéro, c'est l'évasion d'une prison. Ça pourrait faire l'objet d'une série à part entière. Comment tu as dit en cette France, le casse du bureau de Tarkin.
Ah ouais, alors ça, on peut revenir sur ça. C'est une petite déception vite fait, quoi, sur ça. C'était un peu trop facile.
C'est très facile.
C'est ça, très facile. J'avais noté ça, pareil.
Mais d'un autre côté, dans le premier album aussi, on avait quelque chose de similaire. Ça allait très vite,
etc. Bah, bizarrement, dans le premier, j'avais trouvé un peu plus développé, plus complexe. Là, c'est vraiment c'est une pièce remplie de Death Troopers. Quand même, c'est pas n'importe qui, et ils arrivent à s'en débarrasser, mais en un claquement de doigts, quoi. Donc, c'est
c'est ça, c'est quand même Tarkin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Il y a un petit côté, ça aussi, ça aurait pu faire l'objet d'un arc complet, juste la préparation, tout ça, mais on n'est pas dans ce type de série là, on est dans une série d'action, on n'est pas du tout là, dans une série par exemple de cambriolage ou quelque chose comme ça.
Ça se veut ça vite fait, t'as une évasion de prison, t'as deux casses dans deux tomes différents, mais c'est trop rapide. Le fait que Fedra C'est un peu le Deus Ex Machina pour tout, quoi. Elle sort de nulle part, des plans de fou pour Breaking n'importe où. Elle a les infos et on saura jamais d'où elle sort ces infos. Elle est juste, quoi.
Ouais, des petites facilités scénaristiques, là, effectivement. Mais qui permettent d'amener une certaine surprise dans le sens que nous, comme lecteurs, on se doute pas qu'elle, par exemple, elle peut faire ci, elle peut faire ça, elle est au courant de ça. Mais bon. Puis il y a Maz Kanata aussi qui disparaît vite là, dès l'évasion de prison.
Oui, c'est vrai qu'on sait pas ce que...
Maz Kanata fait plus. C'est correct aussi, là, dans le sens que c'est un personnage qu'on voit à gauche à droite depuis quelques temps. Là, donc, mais c'est bien qu'on ait le passif avec Chewbacca, hein, tu sais, parce que justement... Là, dans le film, il y avait le côté qu'elle aimait beaucoup Chewbacca, donc c'est bien d'avoir ce petit développement-là.
Ouais, j'aime bien le petit... les caméos là, de ce tome-là sont sympathiques. Ouais. Les masques, ouais, c'est presque un caméo, quoi.
Donc, sinon, mais c'est, l'intrigue principale, ben, c'est ça, il y a ce que l'urne contenait, là, l'espèce de comment t'as dit, de cœur.
En anglais, c'est ça, ils appellent ça le
côté mémoire de droïde. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté réchauffé, par contre, dans le sens où c'est très près de ce qu'on a déjà connu. Tu sais, 000 dans la série Dr. Aphra ou dans la série Darth Vader, c'est un peu ça aussi, là. C'est une ancienne intelligence artificielle ou un ancien. Mémoire de droïde, de tueur, psychopathe. Bon, là, c'est plus ou moins... En tout cas, c'est un révolutionnaire, mais le final est la même chose. Là. Il a massacré tout à son époque. Au point où, justement, Han Solo, au lieu de remettre ça à Jabba, va plutôt choisir de l'enterrer.
Mm-hmm. Et ça, ouais, donc ça fait le lien, tu l'as dit précédemment, avec les séries régulières qui sortent actuellement et du crossover Dark Droids. Si les auditeurs qui lisent en VO lisent cet event-là, donc c'est lié vraiment, enfin, vite fait, quoi. Là, c'est vraiment le. Ajax, c'est un peu l'antagoniste principal, on va dire, de ce crossover-là. Et d'ailleurs, c'est un personnage qui a été créé par Guggenheim, non seulement donc, dans ce comics Han Solo, bien avant le crossover, parce que ces numéros-là sont sortis en début d'année, mais il avait aussi mentionné hein, ce Ajax dans le Révélation, le fameux one-shot qui faisait le lien entre Hidden Empire et Crimson Reign. Donc déjà, il préparait le terrain, et donc là, Charles Soule l'a repris pour Dark Droids, du coup. Et c'est ça, quoi. Spoiler alert sur Dark Droids, mais ils vont réussir à récupérer donc, ce fameux corps enterré par Han Solo. Et donc, ils vont ressusciter Ajax, et Ajax va partir en révolution. C'était assez surprenant de d'avoir l'origine de cet antagoniste-là dans ce numéro-là, parce que nous, on est complétistes, donc on a pu s'en apercevoir, mais c'était une vraie surprise, là, pour le coup, tu vois.
Mm-hmm. Ouais, d'autant que c'est pas comme si celle-là était écrite par Charles Soule ou tout ça. C'est là, peut-être, que des liens se font par le story group, des choses comme ça, qui disent « Attends, dans l'autre série, tel autre auteur est en train d'écrire ça, on peut faire le lien, bon... » En tout cas, on espère. c'est mes espoirs pour le story group, pour qu'il y ait encore une utilité au story group. C'est ça. Moi, par contre, je sais pas ce que j'étais curieux d'avoir ton avis. Tu sais, évidemment, ça peut être très apprécié comme album en soi unique, même si vous avez pas pris le premier. Moi, je peux pas m'empêcher que n'empêche de faire la comparaison avec le premier. J'ai trouvé que l'intrigue était quand même décevante par rapport au premier. Cet arc-là, tu sais, le premier, il y avait son père que on se doutait que ça devait être un arnaqueur, mais il y avait quand même des numéros où on te laissait croire que c'était très, tu sais, il y avait des connaissances que qui aurait pu les avoir, et il y avait des cliffhangers à la fin des numéros. Bref, cette fois-ci, c'est ça, j'ai trouvé l'intrigue peut-être un peu moins prenante. Puis tout le côté aussi avec l'autre équipe de chasseurs de primes là, qui...
Non, c'était pas...
Peut-être j'ai un trop plein là, des équipes de chasseurs de primes.
Oui, mais peut-être les équipes secondaires surtout. C'est vrai que dans les séries régulières, il y a toujours ces équipes secondaires, mais dans toutes quasiment, quoi. Dark Vador, Aphra, sur et Bounty Hunters, Ariol, Lucky, tout ça, là, ben, justement, Tonga, tout ça, c'est relou dans ces séries-là. Et là, bizarrement, Tonga est notamment, plus Tonga, elle n'est pas vraiment mise en avant, c'est plus la chef, là, j'ai plus son nom. qui a cette espèce de tatou blanc.
Ouais, je me souviens plus. Tonga fait partie de ton équipe, dans le fond.
Voilà. Ouais, parce qu'elle est plus reliée. Voilà, Keltana. Voilà. Keltana, bizarrement, elle m'a. Elle est là assez souvent, mais moi, elle m'a plutôt plu. Bizarrement, j'ai aucune explication de pourquoi elle est plus que d'autres, mais bizarrement, c'est un personnage qui m'a plutôt plu. Ils prennent pas le pas sur Han Solo et Chewbacca, qui restent les protagonistes principaux. Contrairement à Ariol Lucky, c'était la moitié de Nafra sur eux. Pareil, Tonga et sa team, c'était la moitié d'un Bounty Hunter, alors que nous, on veut Valence et les Bosques et tout ça, quoi. Donc là, ouais, ça m'a pas dérangé plus que ça, les avoir là.
Ouais, non, t'as raison, c'est pas la moitié, comme tu dis, là, comme ça peut être le cas dans d'autres séries, là, où un des pires exemples serait peut-être la série Vador, là, que les critiques. Il y a un comics Vador, c'est pas pour suivre une troupe de chasseurs de
primes. Oui, c'est vrai qu'il y avait Vador aussi. Il y en avait deux. À un moment, t'avais les chasseurs de primes et les anti que nous sommes dans.
Ça, il y en a. Puis dans Crimson's Dawn, évidemment, t'en as à la pelletée. Ouais. Tout ça pour dire que c'est ça, c'est peut-être un des points un petit peu plus faibles de ce côté-là. Mais quand on fait la somme de tout ça, tu sais, comme je disais, c'est très très action. Chaque numéro a sa propre petite histoire, propre petite intrigue. C'est pas comme si c'était des morceaux de casse-tête que ça, tu sais, avec de quoi que ça vous prend le total pour comprendre. Là. Non, c'est du très blockbuster. Mais en ce sens-là, j'ai trouvé que ça avait une ambiance très Han Solo-esque.
On
est tout à fait. J'ai trouvé ça très très crédible, très fidèle au personnage. Avec Chewbacca aussi, là, très très bien représenté. Fait que c'est ça. Moi, j'ai du mal à vraiment trouver des gros côtés négatifs à cette série-là. Sauf évidemment les gens qui n'aiment pas Han Solo. Pour tout ce côté-là, un peu grotesque, un peu très très chanceux, très, tu sais, comme tu dis, ils organisent des vols que tu te dis, c'est c'est le bureau de Tarkin sur Coruscant et ils vont s'infiltrer par les égouts, tu sais.
Tu t'as rappelé la chronologie, on est juste avant l'épisode 4, donc du coup. Mais oui. Bon, en même temps, ça c'est. Ouais. Si t'aimes pas Han Solo, pourquoi lire un comics Han Solo? C'est sûr que. Je te rejoins dans à peu près toutes les critiques. Le scénario, moi j'ai pas trouvé plus ou moins faible que le premier. J'ai trouvé relativement sympathique, même dans ce tome-là. Plus de facilité, on en a parlé scénaristique, hein, le bureau Tarkin. Le fait que. On n'a pas trop parlé, mais le Marshall aussi. Le Marshall qui est censé capturer Han Solo. On va faire équipe avec Corvus qui est censé être aussi capturé par le Marshall parce que c'est aussi un criminel, donc il doit être enfermé. Et sur la baston de fer, il va quand même lui donner une arme pour l'aider à capturer Han Solo, alors que c'est un convict aussi. Il y a deux trois détails, comme ça, vraiment des détails de l'histoire qui m'ont un peu fait tiquer. Il y a la présence de Ponda Baba aussi, de Cornelius Evanson, les deux bullies qui sont dans l'épisode 4, là, qui se fait couper le bras.
Oui, qui sont dans Rogue One, qui sont beaucoup dans la série de Dr. Aphra, la première série de 2016. Dans au moins un arc, là, on les voit beaucoup.
Voilà. Donc là, on les voit dans un ou deux numéros. Ils vont servir à l'évasion de la prison de Chewbacca. C'est sympathique de les voir là, pareil, en mode pré-épisode 4. On sait qu'ils vont. Ils s'échappent. On sait qu'ils s'échappent. À la fin de cette scène-là, on se dit, ils vont aller sur Tatooine juste après embêter Luke, quoi. Donc c'était sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour, en fait, du côté Han Solo. Alors c'est complètement ça. Hein. C'est vraiment un comic Han Solo. Indiana Jones, tout ce qu'on veut. Harrison Ford, quoi. Et j'aime beaucoup l'humour, vraiment. Il a une manière d'écrire les dialogues Guggenheim qui me plaise beaucoup. Les dialogues entre Chewbacca, il peut pas vraiment parler basique, quoi. Donc Fedra est là pour un échange de dialogues vraiment entre deux personnes qui parlent basique, en gros, quoi. Et ça envoie des petits vents comme ça, mais des petits vents sympathiques où quand il rencontre Fedra, il dit mais tu l'as trouvé où cette nana, quoi, parce qu'elle connaît tout sur tout, tu vois, elle est au courant de tout. J'aime bien leur relation, et il y a une petite relation qui, en plus, c'est, tu vois, ça va pas être une traître, elle fait ça pour les aider, quoi.
Contrairement à ce qu'on voit souvent, quand Solo est impliqué, c'est toujours trahison par-dessus trahison. C'est un personnage intéressant, même si bon. Dans son design, il n'y a rien de très révolutionnaire. Là. C'est une alien qu'on n'aurait pas de misère à trouver une actrice à Hollywood pour jouer son rôle.
Un petit peu dark. Un petit peu émo, tu lui mets des lentilles jaunes, tu lui fais
côté
à Nicolas Serkis et puis c'est parti. Quoi.
C'est pas une alien très très originale. Puis comme tu dis, un petit côté. Elle connaît tout, ou en tout cas, puis même dans la prison, c'est ça, elle sauve les fesses de Chewbacca, en tout cas. Disons qu'on voit qu'elle est très bien acclimatée à ce milieu-là criminel et carcéral. La seule chose dommage, c'est que dans son cas, je doute qu'on la revoie. Jamais. Ouais. C'est peut-être un sixième sens. Il y a des personnages comme ça, des fois, que tu découvres, que c'est le temps de quelques numéros, tu te dis, ça serait bien de le revoir, mais tu sais très bien que tu ne le reverras jamais. Donc, elle rentre dans cette catégorie-là.
Ça aussi, ouais. Et tiens, on parlait de facilité scénaristique, il y a un petit point aussi, je voulais savoir ton avis sur ça. Le cliffhanger de tome 1, c'était Greedo qui shoot Han Solo, c'est quand même qui a l'air mort, quoi. Bon, on sait évidemment que non, qui va réchapper à ça. Mais la façon dont il est soigné, c'est quand même très très facile, là, encore une fois. Il est droppé sur la planète, donc une planète alien, c'est une race inédite, hein, j'essaie de faire des recherches sur cette race alien.
Ouais, au début, j'ai pensé que c'était ceux avec des longs. Des espèces de tentacules à place des cheveux, là, qu'on avait un Jedi Kit Fisto. Là.
Oui, voilà.
Finalement, c'est un espèce de mix entre ça et le premier bandit, on va dire, que le Mandalorien capture dans la première saison, le premier épisode du Mandalorien, un alien un peu aquatique, là, bleu, avec des branchies, tout ça.
C'est un peu
entre deux, avec la peau verte, mais il était bien.
C'est ça.
J'ai bien aimé, mais oui. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça. Han Solo, tu le sais qu'il va pas mourir, tu le sais qu'il. Bon. Fait qu'il est recueilli par la tribu locale, on va appeler ça comme ça.
Qui a pour motto de soigner. Quand cette tribu rencontre des étrangers, comme ça va être le cas là, il faut qu'ils les soignent, tu vois. Ça fait partie de leur culture. Donc ça tombe bien d'avoir un peuple comme ça qui.
C'est Han Solo. Qu'est-ce que tu veux,
Oui, c'est vrai que c'est la chance légendaire d'Han Solo. Mais en plus, ton gars, tout ça, il le drop dans l'océan, dans l'eau, quoi. C'est pas qu'ils vont le mettre quelque part. Là, c'est vraiment, il drop dans l'eau, donc il aurait pu aussi se noyer, mais non, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est le côté. C'est vrai que ça pourrait être réponse à beaucoup de choses, ça. Mais c'est Han Solo, donc bataille pas trop avec la cohérence du scénario. C'est
juste avec le côté invraisemblable, là, Mais ça fait quand même une belle ouverture-conclusion, ou retour sur l'ouverture, dans le sens où l'arc. Se débute sur le rappel de ça, parce que l'autre arc se terminait sur ça, et cette fois-ci, cet arc-là, le dernier numéro, va se terminer sur le fait que là, c'est Han qui va abandonner, va faire la même chose à ceux qui l'ont abandonné. Cinq numéros, il va pas les blesser et les laisser pour mort dans l'océan, mais il va les abandonner là, sur une planète désertique.
Oui, c'est vrai.
Fait que j'ai trouvé que ça venait boucler la boucle de cette série-là de 10 numéros. Quand même, j'étais surpris au début, parce qu'au début, ça avait été annoncé plus comme un ongoing. J'étais surpris quand même qu'on se limite à 10 numéros, mais au final, je trouve que c'est un bon dosage. Justement, je trouve que Marvel devrait faire ça un petit peu plus souvent. Certaines séries là, que Marvel s'obstine à garder... permanente là, et à toujours renouveler les arcs. Là, c'était bien. On a une petite série Han Solo et Chewbacca. On avait déjà eu une série Han Solo. On avait eu une série Chewbacca. Là, je parle dans le canon, évidemment. Là, dans les légendes, on en a eu amplement. Donc, c'est ça. Je trouve. Puis, tu sais, c'est vraiment la période avant Luke, avant Leia, tout ça. Là, fait que c'est quand même différent. Puis, on est avec le Han Solo, parce que, comme tu as dit tantôt, on est avant, mais on n'est pas tout de suite avant.
Non, c'était une déception aussi.
On est moins 8. Ouais. Donc, il y a encore un jeu là, pour, par exemple, voir pourquoi il est dans la merde là, avec Jabba au début de. Je cherche le titre en français. Un nouvel espoir?
Ouais. Mais ça, tu vois, c'était une des déceptions, c'est que bah, t'as Jabba, t'as Tatooine, t'as Greedo. Et moi, vraiment, le tome 1, je l'ai commencé, je dis, ah ouais, ça c'est cool, ils vont faire le lien avec
l'épisode 4. Ça, ouais.
Et je savais pas du tout que c'était moins 8, quoi. Je pensais pas que c'était autant, d'ailleurs, du coup, effectivement. Et là, pareil, là, ça finit.
Ouais,
j'aurais bien voulu que ça recolle avec l'épisode 4, et finalement, non.
Ouais.
Donc, ça, c'était une petite
déception. C'est un choix aussi côté artistique, mais dans le fond, dans un sens, on est beaucoup plus près du film solo. Que de Un Nouvel Espoir visuellement ils ont préféré présenter Han Solo sous la forme de Harrison Ford
Évidemment.
Et de son allure là, de l'épisode 4 et non pas de son allure du film solo.
C'est
un choix artistique, mais bref, ça aurait tout autant pu être l'autre version. Pu être une espèce de suite du film solo.
Je suis un petit con, moi. J'aime pas l'acteur de Solo, voilà. J'aime bien le film, mais c'est dommage. Moi, j'aime bien Harrison Ford.
C'est bien correct, là. Je te fais pas de rapport. Ouais. À mon avis, Sébastien Galano va être d'accord avec toi.
Mais oui. Non, après, c'est un très bon film, Solo, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est compliqué de passer après. En plus, les recasts, c'est ce qu'ils devraient faire, hein. Tu vois, les recasts, c'est la solution à beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de problèmes dans les films, justement, là, Marvel. Ils vont devoir peut-être effectuer plusieurs recasts, même Star Wars. Mais là, celui-là, c'était compliqué, hein, un personnage aussi iconique. Donc, quand je lis les comics Solo et le cas d'Impérial aussi qui était sorti, qui était plus sur le design de Alden et Eren Reich. Mm-hmm. Ouais, ça me bloque un petit peu, mais bon.
Ça se passait avant Solo. Là.
Il valait mieux.
Un peu de compromis de ton côté aussi, déjà.
Et tu sais quoi, justement, dans le WhatsApp, j'en ai pas parlé, mais je me suis fait aussi, dans l'ambiance Solo, un audiobook que je m'étais jamais fait. C'est l'adaptation junior, donc livre jeunesse de Solo, le film. Okay. Et ce qui est cool, c'est que je m'imaginais le film Solo, donc très très bien, hein, l'audiobook, pas de souci, on va pas revenir dessus, mais je m'imaginais un film Solo avec un jeune Harrison Ford et une meilleure actrice pour Kira, quoi. Donc c'était très très bien.
Là, tu viens de lancer un pavé dans la mort. Si Sylvain écoute l'épisode, là, bientôt, on va en entendre parler.
Non, mais il le sait. Voilà, c'est des petites piques comme ça, mais non, mais Kira, pareil, qui a.
Je crois petit clin d'œil, parce que le prochain roman à sortir, ou je pense qu'il va sortir, c'est sur Kira, justement, donc.
Non, un très bon perso dans le film Solo, hein, et puis non, c'est pas son pire rôle, on va dire, à Emilia. Voilà.
Excellent. Écoute, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je vais te demander, tu lui donnerais quelle note à ce, à ce Solo. On rappelle, je peux réafficher au pire les notes qu'on avait données. C'était un 15 de mon côté, un 17 du tien.
Ouais, écoute, 17, tu vois, là, en y repensant, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais 17, c'était quand même un peu beaucoup, je trouve. Donc, je sais pas si j'ai le droit de descendre un petit peu. Je sais pas trop, non, on va peut-être pas descendre. Mais un petit 16, là, tu vois, les facilités scénaristiques, mais c'est vraiment un petit peu refroidi, vite fait. Mais j'ai quand même passé un très très bon moment. Un petit 16, donc un petit point en dessous du premier, mais ça reste très très bon. J'essaie de retrouver la conclusion là, mais j'ai plus trop de notes. Les petits caméos, on avait Black Crescentan et Kira dans le premier, là on a Maskanata. J'aime beaucoup les personnages secondaires, j'aime beaucoup les méchants, quoi. T'as le Marshall, t'as Greedo, t'as le fameux Corvus. Ça aussi, ça m'embête ça, qu'il n'y ait pas assez de morts dramatiques dans les Star Wars en général, que ce soit séries, films, comics. Les gens, ils n'osent pas tuer des personnages, quoi.
Je sais pas si c'est une quelconque exigence. Pourtant, dans les comics, j'ai beaucoup de mal à croire que Lucasfilm insisterait pour ne pas tuer
des personnages.
Surtout des personnages secondaires qui ont été introduits dans la série.
C'est pas grave s'il meurt ce personnage, on s'en fout, et puis ça aurait été plus dramatique, quoi. Mmh. Le fait de l'avoir revenir, la dernière page, j'étais un peu déçu. D'ailleurs, on voyait quelqu'un dans l'ombre, clin d'œil épisode 4, Greedo, machin, c'était cool, mais il a réchappé à sa chute mortelle, comme énormément de personnages de Star Wars, quoi. Donc, c'était un peu dommage. Et pareil, le fait que, déception du fait que la pseudo-mort, le cliffhanger du tome 1 soit vite réglé dès le tome 2, quoi. Comme la pseudo-mort de Chewbacca qui est en chute du train soit vraiment réglée en 3 cases au numéro d'après. C'est bien d'avoir des cliffhangers, mais si c'est pour après les amortir, les annuler, c'est un peu décevant. Et ça, c'est pour ça que je mettrais un petit point de moins à cause de ça dans ce tome-là, mais ça reste très très bon, et on conseille, à tous les fans de Han Solo, à tous les fans de Star Wars en général, je pense qu'ils passeront un bon moment devant ce tome.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment là, une petite aventure là, sympathique, rapide. Pas besoin de vous rappeler d'une foule d'éléments d'intrigue là, pour attaquer un des cinq numéros.
Et puis si vous sortez de excuse-moi de couler, si vous sortez là en français, ils sont en plein Hidden Empire là, c'est pas fameux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous les auditeurs, vous nous dites dans les commentaires tout ça, mais c'est tellement pas fameux que une petite aventure comme ça fait respirer un peu, ça fait du bien.
ouais un peu détaché du reste.
Ouais.
Moi, même chose que toi, je vais y donner juste un point de moins que le premier. Comme j'ai dit tout à l'heure, des petites, je sais pas s'il faut appeler ça des erreurs là, mais il y a des cases, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été trop vite, qu'ils ont manqué de temps là. Mais pas tout un numéro, vraiment juste certaines cases là que je me dis, voyons, la page d'avant, le visage était très détaillé là, dans celle-ci il est très lisse, il manque beaucoup de détails. En tout cas, des choses comme ça, puis l'intrigue un peu plus faible. Fait que moi, tu vois, je vais y donner un 14. Mais qui est pas mauvais là. Fait que dans mon cas, 14 sur 20, ça reste quand même une bonne note.
Sympathique, très sympathique, ouais.
Donc voilà, ben c'est ça, c'est sur ces critiques quand même très bonnes qu'on va conclure cet épisode de Star Wars en direct littérature. On vous rappelle de nous soutenir, entre autres sur YouTube, hein, les abonnements, les pouces et compagnie. Et les dons, on vous rappelle que Star Wars en direct est très loin d'être un organisme à but lucratif, donc ne serait-ce que pour payer les serveurs, on parle même pas d'équipement là, mais les logiciels et tout ça là, ça finit par chiffrer vite. Et de vous réabonner aussi si ce n'est déjà fait aux comptes surtout Facebook et Instagram là, qui ont été purgés par Meta au printemps dernier. Donc, si je te demandais, Jean, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient pour les auditeurs?
Là, Ahsoka est terminée. Donc, les mercredis, c'est le retour des Quad 9. Donc, tous les mercredis, en alternance, équipe française, équipe québécoise. Je crois que c'est l'équipe québécoise qui reprend la semaine prochaine, vu que c'était les Français qui ont fait le final.
Ça aurait pu dire, puis reste à voir, comme c'est un épisode en pré-enregistré que vous écoutez en ce moment, savoir à quelle date il va être publié.
Effectivement. Ouais. Donc, celui-là n'est pas sûr d'être le numéro. Techniquement, c'est 901, mais peut-être pas. Peut-être qu'on sera le 902, du coup. On verra. Et en littérature, ben, on a pas mal un programme chargé. Hein, là, il faut rattraper tout notre retard. On a donc des comics, La Haute République, Les Aventures, volume 2. T'es sûr que c'est le volume 2 ? C'est pas le. Non, c'est la phase 2, pardon. C'est le tome 1 de la phase 2, non, peut-être. Je crois. Avec. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bref. Et la mini-série de la lame. Donc ça, il nous tarde peut-être faire ça ensemble.
Hein, personnage que j'ai beaucoup aimé de la phase 1.
Oui.
Donc c'est sa jeunesse, on va dire, de chevalier Jedi.
Voilà.
Pas de chevalier. Y es-tu déjà maître ? En tout cas, chevalier ou maître.
En tout cas, c'est ton fan favorite. C'est vrai que ça t'a flashé sur ce personnage dans la phase 1 de la Haute République.
Ouais.
Et là, on n'a pas noté, mais il y a sûrement la review du prochain roman. Enfin, prochain roman, il est sorti depuis un moment. Mais de Inquisitor Rise of the Red Blade, qu'on va faire aussi très bientôt là.
C'est vrai, j'étais en train de l'oublier, mais.
Ah oui, non, il faut pas.
Il mérite qu'on parle de lui.
Oui.
Donc, voilà. Écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.